Suite.
Dis donc, toi, t'as des nouvelles pour
Radio Campus Orléans?
Toujours dans sa musique, pourquoi?
Parce qu'on va aller un peu battre la mesure.
Parce que figure-toi que je les connais, ces saloperies-là.
C'est trop compliqué.
La meilleure des fréquences.
Alors, t'as bien compris, quelqu'un?
Oui, bien sûr, mais ça serait mieux si tu m'expliquais de vive voix.
88.3 FM.
Et c'est sans doute la chose la plus bizarre de l'univers.
C'est parti, allez!
C'est bien compris. Parce qu'en cas de dislocation, il n'est pas question de demander son chemin à Pécor.
Écoute ta fac. Écoute ta fac. Tous les jours, de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là ?
Bonjour à toutes et à tous, il est midi sur Radio Campus Orléans, c'est Erwan au micro, je suis ravi de vous retrouver jusqu'à 13h en ce mercredi 5 avril 2023, journée internationale de la conscience, une journée qui est basée pour la création des conditions de stabilité, de bien-être, des relations pacifiques, amicales, fondées sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamées par les Nations Unies. Aujourd'hui, dans Écoute ta fac, on partira à la rencontre de Luce Gaston, artiste, comédienne, cabaret, artiste aux multiples facettes qui nous propose ce vendredi à Orléans son nouveau spectacle. D'où venons-nous? Où allons-nous? Doit-on prévoir des sandwichs? C'est dans le thème de ce midi d'Écoute ta fac. Bon appétit d'ailleurs, et ce sera à la Ruche en scène. En deuxième partie d'émission, Rodrigue partira à la rencontre de Nathalie Sonac, professeure à Paris 2 et membre du CSA de 2015 à 2021. Elle nous parlera de la crise économique qui touche les médias. Il a également rencontré, c'était lors des Assises du journalisme de Tours, Valérie Croissant et Elisa Bott, qui sont toutes les deux maîtresses de conférences en sciences de l'information et de la communication à Paris et à l'université de Lyon. Mais pour l'heure, on continue cette émission. On la commence même avec toi, Estelle. Bonjour.
Bonjour, Erwan.
Avec cet agenda du Crous qu'on retrouve tous les mercredis à 7h-ci. Et on commence avec une soirée jeux de société.
Oui, la traditionnelle, la seule et l'unique soirée jeux de société qui se passera aux Ormes, comme d'habitude, dans la résidence, à partir de 19h30.
À vos toques et à vos fourneaux pour une soirée culinaire.
Oui, on enchaîne le mercredi soir avec une soirée où on cuisinera tous ensemble dans une cuisine commune de la résidence des Ormes, un mug cake.
Voilà, c'est à retrouver également sur le compte Instagram de Volontaires Crous.
Tout à fait.
Orléans Tours, voilà, donc toutes ces informations sont sur cette plateforme. Merci beaucoup Estelle.
Merci à toi Erwan.
On se retrouve très bientôt pour un prochain agenda du Crous, mais je te propose qu'on continue cette émission en musique avec The First 10 Pages of Kerouac. C'est un titre de Combat Beach.
Phoebe's new song, the April weather reflect my thoughts and moods. The first 10 pages of subterraneans made me think of you. And I don't wanna revive another ghost from the past. I want my life to be another part of Jurassic Park. And I don't wanna revive another ghost from the past. I want my life to be another part of Jurassic Park. Looking back to it now, I'd still write your name all over my shoes. I'd still get your name tattooed after all that we've been through. I don't wanna revive another ghost from the past. I want my life to be another part of Jurassic Park. You won't talk to me, and I hate Instagram and how much.
first 10 pages of Subterraneans made me think of you. I don't wanna revive another ghost from the past and want my life to be another part of the Jurassic Park. I don't wanna revive another ghost from the past and want my life to be another part of Jurassic Park.
Écoute, écoute, écoute!
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac!
Je suis avec Luce Gaston. Alors, tu es autrice, metteuse en scène, cabarettiste. On reviendra ensemble sur ton parcours et sur tous les mots qu'on peut utiliser pour te décrire et te définir. Et tu proposes un nouveau spectacle que tu joueras à Orléans cette semaine, ce vendredi. Première de tes dates de tournée à travers la France. Le titre, D'où venons-nous? Où allons-nous? Doit-on prévoir des sandwichs ? Alors, c'est un spectacle qui est composite, que tu résumes par cette phrase. Quels sont les événements spécifiques saillants au cours de l'humanité qui font que nous sommes passés de l'homme préhistorique tout nu, qui lutte pour sa survie, à l'homme moderne tout nu, qui photographie son sexe pour pécho ? Alors, Luce, toute première question, plutôt jambon beurre ou ton crudité ?
Au niveau des sandwichs, tu veux dire à proprement parler ou non? Non, je parle dans le titre, c'est plutôt de quoi on va se nourrir pour la suite, en fait. Qu'est-ce qu'on emporte?
Alors justement, c'est l'introspection, donc on le sent déjà dans cette phrase introductive. On parle du passé, d'où venons-nous, où allons-nous? On parle du futur et comme tu le dis, donc doit-on prévoir des sandwichs? De quoi on se nourrit? Alors on se nourrit d'amour et de sexe. C'est les deux thèmes principaux dans ton œuvre. Qu'est-ce qui t'a amené à traiter ces deux thèmes?
Ce qui m'a amené à traiter ces deux termes, c'est que je lis beaucoup de philosophie parce que j'ai été étudiante en philo il y a très longtemps. Et puis, j'ai eu envie de revenir à mes amours, premières amours qui étaient la philo, mais continuer à faire rire les gens. J'ai voulu unir le rire et la philo, ce qui n'était pas forcément évident. Et puis, j'ai beaucoup lu et je me suis aperçue qu'on est la génération la plus gâtée au niveau de l'humanité quand même. On a la meilleure qualité de vie de toute l'histoire et on est la génération qui baisons le moins. Et ça m'a vachement interpellée et j'ai beaucoup lu là-dessus. Et effectivement, autour de moi, il y a plein de gens seuls qui sont merveilleux.
Ouais.
Et je suis pas sûre que... Je me suis posé la question de savoir si c'était systématiquement de notre faute.
On est la génération qui baisons le moins alors qu'on a
qui
tous les...
le moins, ouais.
Qui baisons le moins alors qu'on a tous ces outils numériques.
C'est ça, alors qu'on a des applis de rencontres de dingue, qu'on peut parler à des inconnus à l'autre bout du monde tout le temps, qu'on peut commander des gens comme on commande une pizza sur la toile. Mais moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de gens seuls, beaucoup de gens qui avaient fermé boutique. Et parfois, moi, dans la vie, je me sens comme une petite rondelle de carottes caroulées sous un frigo et qui ne comprend pas toujours tout. Et donc, j'ai eu envie de me dire... je vais faire un spectacle sur les gens qui n'ont pas tout compris.
Les gens qui n'ont pas tout compris, il y en a beaucoup des gens qui n'ont pas tout compris.
Ouais, je crois.
Est-ce qu'ils comprennent de travers plutôt?
Ouais, non mais dans la vie, dans la société, la psychologie positive te fait comprendre que tout vient de toi, que si tu changes ton prisme, tu verras les choses de manière positive, etc. Mais je ne suis pas sûre qu'après... 10 ans d'analyse, 3 psys, 3 thérapeutes, 18 voyantes et 5 sophrologues. Il y a plein de gens qui sont toujours aussi seuls et je ne suis pas sûre que ce soit systématiquement de notre faute. Je pense qu'il y a aussi une part de la société de consommation qui nous pousse à devenir des objets l'un pour l'autre. On est toujours le plan cul de quelqu'un ou l'objet de quelqu'un, la pizza de l'autre. Et je me suis dit, mais ça serait chouette d'en parler et de dédramatiser et d'expliquer aussi pourquoi.
Alors justement, un de tes autres amours avec les sandwichs, c'est vraisemblablement les pizzas, je l'ai ressenti en lisant les textes qui présentent ton spectacle. La pizza, tu en as mangé beaucoup sur les soirées où tu t'es peut-être senti seule. C'est le doudou, doudou émotionnel, les pizzas?
Les pizzas, c'est régressif pour tout le monde. Enfin, c'est un truc confortable pour tout le monde. Ça fait appel à l'enfance, la flemme, c'est un mélange de tout, non?
Ça mélange de tout, ça rappelle l'enfance et au contraire l'hostilité, il y avait ce mot qui est revenu encore une fois, comment est-ce qu'on passe de l'homme tout nu qui lutte pour sa survie à l'homme tout nu justement qui envoie des dick pics à tout va, c'est aussi ce que tu as envie de dénoncer avec humour j'ai l'impression.
Oui, c'est un spectacle un petit peu féministe, mais qui est plus humaniste, je trouve, que féministe, parce que sinon, j'ai pas envie qu'on me lance des tomates ou avoir de l'agressivité. C'est pas du tout à charge contre les hommes, mais je pense que si on en est arrivé aussi à faire en sorte qu'on reçoive hommes-femmes confondus des photos de sexe au bout de 3 secondes, alors que si tu remontes le fil de la conversation 3 secondes plus tôt, peut-être que tu parlais de jazz ou je ne sais pas, de comment faire une pizza. Je pense qu'il y a aussi l'histoire est responsable de ça, et ça serait bien d'en parler. Donc je fais une sorte de petit point route. C'est toute la partie d'où venons-nous, sur comment l'histoire du cul et de l'amour, en fait, depuis le Big Bang jusqu'à maintenant. Et en fait, pour comprendre aussi avec le public que pendant des années, on nous a dicté notre conduite sexuelle et morale. L'Église, notamment, l'État, je veux dire, enfin, c'était quand même deux confréries qui s'introduisaient dans nos chambres. Il y avait plein de choses qu'on n'avait pas le droit de faire, pour les hommes comme pour les femmes. Et que quand on a séparé l'Église de l'État, ça a été un peu mieux, mais ça a mis du temps. Les mentalités ont mis beaucoup de temps à changer. Et puis surtout, c'est un spectacle qui devient politique au bout d'un moment, parce que si tu parles d'amour, t'es obligé forcément de parler de cul. Mais si tu parles de cul, de sexe, c'est forcément politique au bout d'un moment. L'aspect politique, parce que finalement, tout est relatif, en fait.
Tout est relatif dans l'amour quel sens est
lié, parce que dans notre société, dans nos sociétés, l'amour... L'amour est forcément lié au sexe, et le sexe est forcément lié à la politique aussi. C'est-à-dire le droit des homosexuels, le droit des femmes, le droit des hommes, le droit des gens, tout simplement, à disposer de leur corps. C'est pas un spectacle féministe, c'est un spectacle humaniste, dans la mesure où les hommes aussi ont leur dicté leur conduite.
Les hommes aussi ont dicté leur conduite, victimes du patriarcat aussi ? Est-ce
oui,
qu'on peut mettre
sûr,
le mot ? Est-ce qu'on parle du patriarcat ici ?
Ouais.
Ouais, complètement. Ouais.
Oui, je le prononce qu'une seule fois dans le spectacle, mais il est sous-entendu, largement.
Patriarcat, également justement le droit de disposer à son corps, et au contraire, en fait, cette hypersexualisation, on le voit notamment, puisque à un moment dans le spectacle, est-ce que c'est pendant tout le spectacle ou c'est seulement à certains moments, tu portes ce masque justement de poupée gonflable ?
Ah oui, alors ce masque de poupée gonflable, déjà c'est un personnage du cabaret que j'ai créé.
Oui.
Qui parle comme un robot, c'est un masque que j'ai trouvé et j'en ai fait tout un personnage qui va interroger. C'est-à-dire, c'est une poupée gonflable qui a des propos très féministes. Déjà, faire parler une poupée gonflable me faisait marrer en soi. Je la fais chanter aussi des chansons. Et puis, du coup, c'est un personnage qui a cartonné au cabaret et j'ai eu envie de l'inclure parce que justement, elle est surprenante, elle est malaisante. Et en même temps, ça me permet de lui faire dire des choses.
Et justement, avec cette bouche grande ouverte, bon, pour d'autres utilités, évidemment, mais ça lui donne tout le temps cet air étonné. Est-ce qu'on est étonné
oui.
face à ce monde ?
Bah, moi, je crois que la philosophie, c'est la fille de l'étonnement. Je pense que rester éveillé, c'est toujours s'étonner.
C'est toujours s'étonner que de rester éveillé, se questionner. Et comment est-ce qu'on bouscule, justement ? Comment est-ce qu'on fait en sorte de ne jamais s'endormir ?
Bah, déjà d'être alerte quant à ce qui se passe, quant à nos droits, quant à la manière dont la société évolue, quant au regard des gens les uns sur les autres, quant au faut jamais oublier cette phrase de Simone de Beauvoir qui dit n'oubliez jamais que il suffira d'une crise religieuse, politique ou économique pour que les droits des femmes soient toujours remis en question. C'est valable pour les droits des homosexuels et de toutes les minorités confondues, de toute façon, parce que je pense que ça fait pas si longtemps que ça, si tu mets tous les événements du monde sur la même fresque historique, quand tu regardes les évolutions, les droits, bah, par rapport à 2023, visuellement, si tu fais une fresque historique à l'échelle, bah, c'était il y a 5 minutes, visuellement.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on continue à progresser ou est-ce qu'il y a un risque de régresser ? Quand on voit des extrêmes monter dans d'autres pays européens, quand on voit en France qu'il y a de plus en plus de mouvements qui sont conservateurs, est-ce qu'il faut s'inquiéter justement par rapport à ça ?
Moi, je pense qu'il faut toujours s'inquiéter, il faut toujours rester alerte, il faut toujours avoir beaucoup de recul dessus et beaucoup d'humour. C'est pour ça que mon spectacle est d'abord un spectacle drôle. C'est un mélange de stand-up, de seul en scène. C'est de la comédie d'abord. C'est entrecoupé de choses pas trop cons, j'espère. Ce sera au public de me le dire. On apprend des choses, mais on rit parce que... Moi, j'ai eu envie de rire de ça, parce que rire, c'est dénoncer. Mais je pense qu'effectivement, oui, il y a des masculinistes. Je veux dire, le mariage pour tous nous a bien montré à quel point il y avait aussi des mouvements... extrémistes et conservateurs qui étaient bien existants et bien présents. Ah, moi qui habite Paris, j'ai quand même vu des pancartes avec les PD au bûcher, quoi. C'est quelque chose que j'oublierai jamais.
Donc de l'appel au meurtre.
Et moi je suis hétéro et c'est quelque chose qui, que j'oublierai jamais. Et ce que je trouve. Ce pourquoi je me permets de prendre la parole, c'est parce que. Parce que même si c'est pas tout à fait mon combat, c'est un spectacle inclusif, c'est-à-dire que c'est un spectacle féministe, mais qui est aussi humaniste. Et je pense que du droit des femmes ont découlé beaucoup d'autres droits. Et je pense que soutenir les mouvements féministes, c'est être humaniste d'abord. Et je pense que si on était tous ensemble, ça irait un peu mieux. S'il y avait plus d'hommes qui grossissaient les rangs des manifs de violences faites aux femmes, ça irait mieux. Et s'il y avait plus d'hétéros qui grossissaient les mouvements pour les droits des homos, ça irait mieux aussi. Et c'est pour ça que je voudrais... Enfin, pour moi, c'est un spectacle qui donne envie d'être amoureux et qui donne envie de se battre.
C'est un spectacle...
Mais d'être positif.
Militant positif. On a de l'espoir.
Ouais. C'est pas du tout à charge, c'est un truc, pas pour moi, c'est un truc un peu militant et qui est très positif et qui dit, les gars, regardez d'où venons-nous, regardez d'où on vient, pardon, où est-ce qu'on est en train de devenir, et n'oubliez pas que l'amour, ça s'achète pas, en fait, les gars.
L'amour, ça ne s'achète pas?
Bah ouais, je pense.
Est-ce qu'il y a d'autres artistes dans lesquels tu te reconnais?
D'autres artistes dans lesquels je me reconnais, c'est une bonne question. Tu veux dire de gens qui font des seuls en scène ou en soi
Des artistes qui t'ont inspiré pour ce spectacle, des références à toi, des spectacles que tu as pu voir.
Déjà, il y a toute une partie musicale qui est créée dans le spectacle, parce que c'est un spectacle avec de la musique électro.
Ouais.
C'est un spectacle très sonore, parce que mon métier aussi, dans le métier de comédienne, il y a plein de chapelles. Et moi, je fais aussi des voix pour la radio. Je prostitue mon organe vocal pour des pubs. Je fais du doublage, je fais plein de choses. Et donc, j'ai eu envie de créer une bande-son qui a été créée par deux artistes extraordinaires qui s'appellent Julie Gasnier et Catel, qui sont deux artistes interprètes. Elles écrivent, elles composent, elles interprètent leurs propres chansons. Elles font aussi des albums pour d'autres gens. Et elles m'avaient vu jouer, elles m'ont dit qu'elles étaient partantes pour me faire ma bande-son. Et c'est une bande-son vraiment démente. C'est de l'électro, parce que j'ai eu envie de mélanger plein d'arts différents. Voilà, après, évidemment, je suis fan de Blanche Gardin comme tout le monde, je suis fan de plein de gens. Moi, les artistes qui m'ont donné de l'espoir, qui m'ont donné envie de faire un seul en scène, c'est des gens comme Zouk. Alors ça, la très jeune génération me connaît peut-être moins, mais Zouk, c'est une femme extraordinaire qui a fait des sketchs et qui est en hôpital psychiatrique et qui a dépeint les gens de manière très drôle, très crue et en même temps très poétique. Il y a Valérie Lemercier, évidemment, il y a Blanche Gardin. Ça, c'est des femmes qui m'ont donné envie de prendre la parole. Et il y a aussi le spectacle Coup de poing que j'ai vu 150 fois, qui m'a fait halluciner, c'est Nanette.
Nanette.
Nanette, c'est Anna Gasby, c'est une lesbienne qui fait un seul en scène, qui est un truc, j'avais jamais vu ça de ma vie, en fait. J'ai trouvé ça exceptionnel. C'est sur Netflix, je crois, tu peux le voir. C'est juste... C'est une claque. C'est une claque monumentale de tolérance, d'intelligence. C'est un fracas total.
Une recommandation à donc mettre dans nos listes de lecture de nos auditeurs et auditrices. Alors,
ah oui, bon.
tu l'as mentionné plusieurs fois, on est sur un spectacle qui est composite, qui est multifacette. Alors, il y a du stand-up, du podcast, donc tu as fait de la radio. Hein. Tu fais même de la radio, tu prêtes ta voix, tu l'as dit, hein. Du slam, de la conférence, de la fausse publicité. Alors, c'est quoi ton parcours, sachant que tu es aussi dans un autre projet, dans un projet de cabaret depuis 2018, c'est Le Secret de Jérôme Marin.
Ouais. Mon parcours, bah, il est simple et chaotique en même temps. Enfin, moi, j'ai fait des études de philo pendant lesquelles j'ai découvert le théâtre avec des copains. On a monté plein de pièces, des créations qu'on jouait, etc. C'était une copine qui s'appelle Julie Doire, qui est une super autrice, qui est publiée chez POL, dont les romans sont publiés chez POL, avec qui j'ai commencé. Et ensuite, sur un coup de tête, une fois que j'ai passé mon CAPES et que je l'ai raté, je suis partie à Paris, mais vraiment sur...
Tu voulais faire de l'enseignement?
Ouais.
Ouais.
Bah, je partais pour faire de l'enseignement de philo. Bah, j'avais plutôt envie de faire de la recherche que de l'enseignement. Et en fait, j'ai échangé un billet de train parce que je m'étais engueulée avec mon copain de l'époque. Et je suis partie à la gare, je suis partie à Paris, je me suis baladée. Je connaissais un peu Paris déjà. Puis j'ai eu envie d'être comédienne et j'ai travaillé pendant des années, pendant mes études, dans un cinéma. Ce qui m'a permis de toucher le chômage et comme ça je pouvais payer un loyer décent. Et ensuite, moi je suis totalement autodidacte pour le coup dans le théâtre.
Ouais.
Et ensuite, j'ai beaucoup traîné dans les cafés à Montmartre parce qu'à Montmartre il y a plein d'artistes et j'en ai rencontré comme ça et c'est comme ça que j'ai joué. Et moi j'ai fait des comédies pendant 14 ans non-stop,
okay.
Du mardi au dimanche. J'ai joué dans des pièces qui étaient connues, mais avec des acteurs pas connus. On était des acteurs interchangeables. On était deux sur chaque rôle. Donc
sur quelle pièce
alternait.
Tu as pu participer et jouer?
J'ai joué dans J'aime beaucoup ce que vous faites, qui est une pièce qui s'est jouée, je sais pas, qui se joue depuis 15 ans, à peu près. Ouais. Je sais pas si elle se joue encore, avec des équipes qui se succèdent, etc. Et puis c'était là mes heures de vol, en fait. J'ai appris à faire rire, et ce qui est une drogue. Parce que c'est assez génial, en fait. C'est bizarre d'être récompensé par du bruit. Ouais. Et en même temps, c'est le truc le plus... c'est la meilleure drogue que je connaisse, j'avoue. j'ai eu des passages à vide. J'ai voyagé aussi un petit peu. Pendant ce temps-là, j'ai glandé beaucoup aussi. et j'ai réfléchi, je pense, pendant ce temps-là. Et après, j'ai rencontré Jérôme Marin qui dirige le cabaret Le Secret depuis 2017 d'ailleurs je crois, et qui donne carte blanche aux artistes à qui il fait confiance, en fait. C'est-à-dire qu'on a carte blanche pour nos numéros, et j'ai commencé à faire... Alors c'était soit des sketchs, soit des performances, soit des chansons. Je me suis même mise à chanter alors que je pensais pas que j'étais capable. Et en fait, c'est au fur et à mesure... des spectacles, c'est le public qui m'a dit « mais quand est-ce que tu joues? Qu'est-ce que tu fous ?» Et pendant ce temps-là, j'écrivais. Et puis après, j'ai eu l'idée de réunir tout ce que j'avais écrit en l'enregistrant en audio. Ça, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Si vous êtes paumé dans votre écriture, enregistrez-vous. Et après, écoutez-vous pour voir où vous en êtes, en fait. Et je me suis aperçue que j'avais déjà 1h30 de spectacle.
Ah.
Et qu'il fallait s'arrêter et après retravailler dedans et tout. Mais ce que j'ai voulu faire surtout, c'était mélanger les styles parce que, je sais pas, enfin, dans le théâtre, soit c'est du stand-up, soit c'est du seul en scène, on vous met toujours dans des cases. Ben moi, j'avais pas envie. Ça peut très bien être considéré comme un concert ou comme du slam ou comme du stand-up ou comme du seul en scène. Comme du podcast aussi, parce qu'il y a cette bande-son en fait, qui me suit tout le temps, ouais. Et avec des chœurs qui avancent dans le propos.
Okay.
Mais j'ai surtout eu envie de faire un truc qui me ressemblait, et surtout, je trouve qu'il y a un enjeu pédagogique drôle dans ce spectacle. Et moi, le meilleur compliment qu'on m'ait dit à la sortie du spectacle, c'est « ça donne envie de tomber amoureux, parce que après tout ce qu'on a vécu, ce que tu nous racontes, parce que je raconte quand même en accéléré l'histoire du cul depuis le Big Bang. Je parle même de la vie sexuelle des cellules. Hein.
Ah, attention, un petit cours de SVT en plus de ça.
Bah oui, c'est pas soporifique, promis.
c'est noté.
Et j'avance, et c'est entrecoupé de performances assez émotionnelles qui sont modernes, où tout le monde peut se retrouver. C'est-à-dire... des rencontres sur Internet qui sont tragicomiques. C'est plein de perfs où on se retrouve. Voilà.
Alors, où allons-nous ? Un des futurs possibles, en tout cas, dans lequel on est en plein dans l'actualité, hein, c'est l'arrivée progressive de l'intelligence artificielle, l'IA. Et il y a quelques semaines, quelques mois de cela, l'arrivée d'une IA d'un tout nouveau genre, ChatGPT, qui est capable de faire des miracles. Et une question de fond, en fait, est-ce qu'on ne va pas se faire remplacer par les robots et par l'intelligence artificielle, l'artistique ?
Bah, ça, je pense que... Je ne sais pas si on y échappera, mais en tout cas, on y tend profondément, enfin clairement. Je ne sais pas si c'est un mur. L'intelligence artificielle peut faire énormément de choses très positives, mais éthiquement parlant, ça, c'est clair que ça pose déjà des soucis. Moi, dans mon métier, ça pose déjà des soucis. Dans le métier de la voix off, par exemple.
Parce que tu fais de la voix off en radio.
Voilà, ou dans le métier du doublage, par exemple, il faut savoir qu'en Italie, il y a des comédiens, enfin, il y a des comédiens qui font déjà grève. Là, il y a quelques semaines, ils ont fait grève parce que l'intelligence artificielle commence à les remplacer. Il y a même des sociétés opaques qui te proposent d'enregistrer des trucs, etc. Puis en fait, qui volent ta voix et après la reproduisent gratuitement, évidemment. Et puis, effectivement, on voit avec... les fake news, etc., tout ce qu'on peut faire, te faire croire que Poutine vient d'être arrêté, ce qui serait juste merveilleux, mais ça n'est pas encore à l'ordre du jour.
Ah, le deepfaking, ce genre de technologie aussi.
Ouais, on peut te faire croire n'importe quoi. Et je pense que scientia potentia est, c'est du latin, c'est le savoir, c'est le pouvoir. Et je pense que l'intox dans l'info, bah, c'est la meilleure façon de désinformer les gens. Et c'est pour ça qu'il faut rester très éveillé, je pense.
Rester très éveillé. Est-ce que tu penses un jour intégrer ces technologies dans ton spectacle ? Ou est-ce que c'est déjà le cas ? Tu me disais qu'il y avait quelque chose de très robotique.
Oui, j'ai des voix vocodées justement pour dire qu'on est en train de devenir des objets. Ouais, moi, si je trouvais une prod avec plein, plein d'argent, j'adorerais qu'il y ait des hologrammes. j'adorerais. Enfin, l'idée, ce serait d'avoir des hologrammes avec... les tenues de toutes les femmes depuis le début de l'humanité, en fait, ce qu'on nous a forcé à porter. Dans des corsets qui modifiaient les corps, la façon de respirer, qui modifie quand même la cage thoracique des femmes. Voilà. Etc, etc. Mais oui,
et
non, je
ne
suis pas là.
Les vêtements a posteriori qu'on pense comporter les femmes à une autre époque. Tout le travail, en fait, autour des vêtements des femmes de l'époque préhistorique. On voit tous justement dans les dessins animés qu'il y avait qu'on s'appelait la famille Pierre à feu, toujours en petite tenue. Ouais, mais c'est une projection en fait du XXe siècle et du XXIe siècle sur une époque qui était il y a 300 000 ans. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a aussi la question des tenues.
D'autant que la préhistoire, c'est une science qui est très récente. Elle date du XIXe siècle et elle a été inventée uniquement par des scientifiques de sexe masculin.
Et érotisée donc, quelque part aussi.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire que ça a été érotisé ?
Ben oui, et à la préhistoire, en fait, les scientifiques de l'époque, ils ont accolé des images de la femme et de l'homme, qui étaient patriarcales, en se disant, bah, au début de l'humanité, c'était comme ça, paf, bisous. Alors qu'on s'est aperçu, je me suis vachement intéressée à la préhistoire, parce que je trouve ça assez fascinant comme période. Et par exemple, en Suède, on a retrouvé un squelette qui était couvert d'armes, d'ornements, de bijoux. Et tout de suite, on a déduit que c'était forcément un guerrier. Et pendant deux siècles, on a idolâtré ce guerrier, etc. Et grâce au séquençage de l'ADN, on s'est aperçu que c'était une meuf.
Une femme, ouais.
C'est quand même dément. De se dire qu'on a décidé que c'était comme ça depuis la préhistoire, que c'était comme ça, les rapports hommes-femmes, que les femmes ne chassaient pas, alors qu'à mon avis, elles devaient crever la dalle et elles devaient chasser aussi. Mais on a accolé ce principe au nom du patriarcat. Et ce qui est fou, c'est que la science, quand même, est merveilleuse là-dedans. C'est qu'on s'aperçoit que ce n'est pas vrai, quoi.
Est-ce qu'il y aura des...
L'homosexualité existait déjà depuis le début de l'humanité les partous, tout ça, enfin, je veux dire, ça leur posait pas de problème, manifestement.
Et c'est quelque chose qui, au fur et à mesure du temps, on a quelque part censuré. Tu revendiques également un droit à l'émotion poétique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'émotion poétique ?
Je pense que dans cette société, parler d'amour, c'est toujours un petit peu nian-nian, c'est toujours un peu... Moi, je parle d'amour et de cul, et du coup, c'est trash et drôle. Mais j'oublie pas la poésie, parce que je pense que on est tous fait de ça, en fait. On n'est pas en bois. Et même si on passe nos vies à objectiser les autres, c'est-à-dire à dire des gens, ouais, je sais pas, à dire de quelqu'un que tu viens de rencontrer, attends, je laisse sa chance au produit, hein. Tu vois, bah, c'est quand même fou de faire ça. J'ai pris un accent de pétasse, pardon. Ou de péteux, mais je ne sais pas. Mais non,
c'est... Ouais, tu vois, même dans ce genre de mots, en fait, il y a quand même encore une fois la trace de, justement, utiliser la femme, évidemment, pour dégrader l'image.
Ben ouais. Et ce qui est triste, c'est que je trouve qu'on oublie la poésie. Et dans la sexualité peut être poétique, l'amour est poétique, nos rapports aux gens sont poétiques et qu'il ne faut pas l'oublier. Et c'est pour ça qu'il y a des moments aussi, peut y avoir du slam, parce que moi j'adore le slam, parce que c'est de la poésie pure et moderne, et que mélanger ces arts-là, ça m'a paru plus accessible, plus chouette et plus porteur, en fait, tout simplement.
Donc là, on a quelques éléments de réponse à ce que d'où venons-nous, où allons-nous. La question que j'allais te poser, c'est naturellement vers où souhaites-tu, veux-tu aller. Et là, je pense qu'on a déjà quelques éléments de réponse. Mais je te pose comme la question, il y a peut-être d'autres choses à dire. Vers où souhaites-tu aller?
Déjà, ce titre, en fait, il y a une histoire dans ce titre qui est très drôle.
Allez,
c'est qu'il y a, je ne sais pas, peut-être une vingtaine d'années, j'étais en tournée et sur l'autoroute, je ne sais plus laquelle, pour aller dans le sud. Et je me suis arrêtée pour aller aux toilettes dans une aire d'autoroute qui était digne de celle de Trainspotting. Enfin, les toilettes de Trainspotting, c'était l'apocalypse. C'est-à-dire, tu touches à rien.
Oui, il y a des maladies sur chaque carreau, sur chaque robinet.
Voilà, tu respires pas, t'es en apnée, etc. Et pendant que je faisais mon petit pipi, en face de moi, sur la porte, il y avait écrit « D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Doit-on prévoir des sandwichs ?» Et j'ai explosé de rire. Et je me suis dit... Mais si jamais je fais un spectacle, il va s'appeler comme ça. C'est pas possible autrement. Déjà, le titre, c'est voilà l'histoire de ce titre.
Je dois te faire une confidence.
Ça m'a fait tellement rire.
Quand j'ai vu le titre de ton spectacle, j'ai aussi explosé de rire.
Mais voilà, parce que ça veut. Alors, ça n'est pas un spectacle sur les régimes, hein, évidemment. Ça n'est pas un spectacle sur la surcharge pondérale non plus. C'est de quoi on se nourrit en fait pour la suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où d'où venons-nous aura été expliqué aux spectateurs, où allons-nous, c'est-à-dire la technologie, les bons qu'on a faits dans l'humanité, c'est-à-dire l'industrialisation. Enfin, je veux dire, entre le 19e et le 20e siècle, il s'est passé mais tellement de choses par rapport à tous les siècles précédents qu'on n'a pas vu le truc venir, quoi. C'est énorme. Et depuis 40 ans, c'est encore plus fort. Les portables, les machins, tout ça.
L'IA, on en parlait aussi.
Voilà. Et où allons-nous ? C'est qu'est-ce qu'on emporte pour la suite, quoi ? Est-ce qu'on a envie de continuer à être l'objet de l'autre ? Est-ce qu'on a envie de continuer des politiques où la planète est en train de crever ? Il y a aussi une petite pointe écolo à la fin du spectacle, parce que je pense qu'en fait, on a beau ne pas être d'accord. Et c'est très bien, ça s'appelle la démocratie, mais on est tous sur le même plancher. Et à la limite, la nouvelle religion qui pourrait tous nous réunir, ce serait juste l'écologie, en fait. Parce que je pense qu'on n'a pas du tout intérêt. Enfin, si on ne veut pas cramer comme, dans 20 ans comme des poulets, je pense qu'on a intérêt à avoir plus d'amour entre nous, et notamment pour la Terre, déjà, ça c'est sûr.
Et comment voilà, fait-on l'écologie ?
Comment
fait-on de l'écologie ? Mais je pense que là, c'est un sujet à part entière sur toute la question de...
Ouais, c'est un sujet... Il y a un super livre de Lorraine Bastide, qui est la réalisatrice des podcasts de La Poudre, que je vous recommande, qui s'appelle Comment construire un futur féministe, et qui est merveilleux parce que, justement, c'est très politique et c'est tous les domaines, en fait. C'est aussi bien l'écologique, la politique que tout, en fait. Voilà. Moi, je pense que le féminisme, c'est pas une mode. Et je pense que l'humanisme en est encore moins... Enfin, l'est encore moins. Et qu'il n'y a pas de honte à avoir envie de s'aimer un peu davantage, de rigoler aussi, et de sauver la planète, en fait. Voilà. Mais je pense que l'actualité et ce qui se passe dans le monde nous le montre de plus en plus. En tout cas, pour les gens qui sont un peu ouverts, quoi.
D'où venons-nous? Où allons-nous? Doit-on prévoir des sandwichs? Donc, un spectacle que tu as déjà joué une seule fois, donc à Paris, c'était en showcase devant des proches, des amis. Là, ça va être ta première date hors de Paris, Orléans. Il y a d'autres dates à prévoir pour le moment?
Non, parce que peut-être Avignon, mais je cherche surtout des prods. Donc, pour l'instant, je me réjouis de jouer à Orléans parce que d'abord, c'est le fief du Cabaret Le Secret. Il y a toute l'association du Cabaret Le Secret qui vient d'Orléans, donc ça, c'est chouette. Et puis, surtout, je vais être confrontée à des gens qui ne me connaissent pas du tout. Et ça me fait très, très plaisir parce qu'on fait, de l'art. Pas pour sa grand-mère ou sa grande sœur, on fait de l'art pour des gens qu'on connaît pas, donc le public. Et c'est la seule reconnaissance qui vaille, en fait.
Et est-ce que le public peut venir en apportant son sandwich?
Ouais, on les partagera.
il y aura des sandwichs au catering pour l'équipe.
Ouais, j'espère, mais c'est surtout des sandwichs célestes, quoi. C'est-à-dire des sandwichs. Des sandwichs d'amour, enfin qu'est-ce qu'on va se dire pour la suite, qu'est-ce qu'on se souhaite pour la suite et qu'est-ce qu'on envisage ensemble pour la suite, en fait. Peut-être que des gens auront envie d'être plus actifs à la suite du spectacle et de se marier surtout.
Voilà, un spectacle à aller découvrir donc à Orléans, ce sera ce vendredi. J'ai plus le numéro du jour, mais ce sera, donc on est en avril 2020.
7 avril.
7 avril, c'est ça.
À 20h30.
Voilà.
À la rue Chansen, et les tarifs réduits, c'est 6 euros et 12 euros.
Voilà. Le mot est donné beaucoup. Merci beaucoup, Luce.
C'est presque aussi cher qu'un sandwich.
Mais oui. Donc ce soir-là, soit vous aurez le choix entre trouver la dernière boulangerie encore ouverte ou venir voir l'excellent spectacle de Luce Gaston qui se produira donc ce vendredi à Orléans, à La Ruche, en Seine. Où est-ce qu'on te retrouve?
Sur Insta.
Eh bien super, on te retrouve sur ta page Insta. Merci beaucoup à toi.
Mais merci Erwan, à bientôt.
Voilà, infos et réservations sur www.laruche-orléans.fr.
Écoute ta fac.
L'agenda.
Tu le veux celui-là?
Et il est midi 37 dans Écoute ta fac sur Radio Campus. C'est à vos caméras puisque le défi 48 heures très court environnement se tiendra, vous propose ce concours qui vous invitera et les équipes à créer un court métrage de moins de 4 minutes sur le thème de l'environnement. Le défi aura lieu le 2 juin 2023 et les équipes apprendront le thème, l'objet, le personnage et la phrase à inclure en début de défi. Il y a 4 contraintes au total à inclure dans ces courts métrages. Le duo Avant l'orage soutiendra les équipes tout au long du concours et les films finalistes seront projetés au cinéma studio à Tours. Ce sera le 10 juin 2023. Et les équipes sélectionnées, la vingtaine d'équipes qui sera sélectionnée, pourront également prétendre à des financements auprès de CNC Talents. Au total, il y a une enveloppe de 30 000 euros. Pour participer, rendez-vous sur le site trèscourt.com/fr/48h. Les inscriptions auront lieu du 7 avril au 26 mai 2023. Donc allez-y, n'hésitez pas pour créer justement ce cinquième art. On continue en musique avec What Are The Odds de Death Valley Girls et on se retrouve dans quelques minutes avec les intervenantes que Rodrigue a rencontrées sur les Assises internationales du journalisme, c'était il y a 2 semaines. We'll be right back. Voilà pour ces quelques notes de What Are The Other Death Valley Girls. Il y a deux semaines maintenant, Rodrigue était avec nous aux Assises internationales du journalisme de Tours. Il a notamment pu rencontrer Nathalie Sonac, professeure à Paris 2 et membre du CSA de 2015 à 2021 et préside aujourd'hui le COP du Clémy. Et il a parlé avec elle d'économie des médias.
Donc je suis Nathalie Sonac, professeure à l'université Paris-Panthéon-Assas. J'ai été membre du CSA de 2015 à 2021 et je préside actuellement le COP du Clémy, qui s'intéresse beaucoup à toutes les questions d'éducation aux médias et à l'information.
Merci pour cette présentation. Alors on vient de ressortir d'une conférence auquel vous avez participé et qui concernait le pluralisme des médias. Quelle législation? On s'interrogeait autour de cette question. Ce qui est ressorti, c'est qu'on a une multiplication des médias, notamment dans leur nom, avec l'évolution des nouvelles technologies, mais également avec l'élargissement de la TNT, dont on a pu parler, et que dans un autre temps, on a une concentration des médias. Est-ce que, au final, avec cette concentration des médias, on peut parler de pluralisme? On parvient encore aujourd'hui à avoir un pluralisme?
On voit bien que, et vous le définissez très bien finalement dans votre résumé, c'est qu'on a un paysage médiatique qui est en pleine transformation. Ça fait déjà une bonne quinzaine d'années qu'il se transforme, mais aujourd'hui finalement il change de cap, puisque les médias sociaux apparaissent comme le premier média sur lesquels les jeunes viennent s'informer. Alors d'abord les plus jeunes, donc les 17-35 ans, donc évidemment ça pose question en matière d'expression, mais de pluralisme, enfin d'information plutôt. Et dans le même temps, on s'aperçoit que les chiffres viennent notamment des États-Unis, mais c'est vrai sur toute l'Europe et c'est vrai en France, que aujourd'hui les médias sociaux, les réseaux sociaux, ce sont les premiers médias sur lesquels on s'informe. La grande difficulté, c'est que sur ces médias-là, la régulation ne fait pas de distinguo pour l'instant. C'est un marché qui est de l'information qui est totalement dérégulé et sur lequel circule une information qui est traitée, qui est une information de qualité, sur laquelle on peut réfléchir, sur laquelle on construit sa connaissance et on va faire le distinguo entre le fait, les opinions et donc vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui de l'information de qualité. Mais dans le même temps, on est confronté à de la désinformation, à des débats qui sont polarisés, avec aussi des débats qui sont complotistes, positions sur lesquelles on ne trouvait pas, ou en tout cas pas de cette façon-là, sur les médias traditionnels, même lorsque ceux-ci pouvaient être orientés politiquement. Aujourd'hui, on voit qu'il y a cette polarisation, cette invective qu'il peut y avoir en ligne, vraiment désarçonne, déséquilibre et met en danger notre démocratie.
Et face à ces déséquilibres, ces transformations, ces dérégularisations pour ces nouveaux médias, l'échelle à laquelle réglementer, c'est laquelle? Comment on fait pour réglementer? Est-ce qu'on passe au niveau national? Est-ce qu'on pense plutôt au niveau européen?
On voit bien que comme on est sur un marché qui est vraiment un marché international, qui est aujourd'hui numérique, où finalement l'information sous forme de texte, de vidéo, de son circule sur l'ensemble des supports, de facto, on voit bien que le niveau national n'est pas suffisant. Les acteurs qui sont au-dessus sont en l'occurrence les GAFA, Google, Apple, Amazon et Facebook, sont très fortement présents dans le monde médiatique et ils ont même une position qui est une position hégémonique. Donc la France à être toute seule, ça n'aurait pas de sens. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est le cadre européen qui est en train de se constituer, qui avance sur ces questions-là. Dernièrement, il y a deux règlements qui sont le Digital Service Act, Digital Market Act, qui sont des règlements qui sont extrêmement importants parce qu'ils visent à responsabiliser les plateformes. Finalement, on ne peut plus accepter aujourd'hui que les plateformes se disent ou disent d'elles-mêmes qu'elles sont de simples contenus sur lesquels et elles n'ont pas de prise sur les. Enfin, qu'elles sont simples tuyaux, pardon, il y a du bruit autour de moi, qu'elles ne sont de simples tuyaux sur lesquels le contenu circule. En fait, non, c'est pas vrai. Elles ont une responsabilité aussi et c'est cette avancée européenne.
Et ce niveau européen que parfois les gens ont du mal à comprendre et aussi face au lobby qui peut exister autour justement du Parlement européen et de toutes ces institutions, est-ce qu'à ce niveau-là, ça ne pose pas des problématiques?
Alors non, alors il faut toujours évidemment s'en informer et regarder ça très près, mais quand on regarde la directive du service de médias audiovisuels qui a été transposée dans la loi de 86, donc c'est une directive qui a été prise au niveau européen d'harmonisation pour que justement le champ du régulateur s'élargisse au numérique. On a la possibilité aujourd'hui de faire participer au financement ces nouveaux acteurs pour la création tant de l'audiovisuel, des œuvres audiovisuelles que des œuvres cinématographiques. Donc on voit bien que ces avancées sont indispensables. Lorsque les droits voisins sont reconnus, ça a été une très longue bataille, mais le droit d'auteur en numérique est devenu aussi l'élargissement aux droits voisins, c'est-à-dire cette possibilité pour que des journalistes en ligne ne se fassent pas piller leur contenu sans que ceux-ci ne soient rémunérés, c'est une grande avancée. Donc non, ce sont des grandes avancées. Il y a des bagarres évidemment lobbyistes, mais qu'on a gagné. La directive SMA est une vraie avancée pour l'Europe, une vraie avancée pour l'exception culturelle française, vraiment avec l'idée française, même si elle est européenne. Le droit d'auteur, le droit voisin sont des reconnaissances indispensables. Il y a aujourd'hui le European Media Freedom Act sur lesquels les Européens, les administrations sont en train de travailler sur ces questions-là. Donc le Parlement, le Conseil de l'Europe, ils vont travailler là aussi en trilogue sur ces questions justement de redéfinition, parce que l'espace informationnel n'a plus les frontières qu'il avait auparavant.
Et on a parlé du coup des nouveaux médias, là on en parle. Et est-ce qu'on peut peut-être aussi parler de ce qu'on appelle les médias traditionnels qui eux aussi, même si la loi Bloche en 2016 a été adoptée, il reste encore énormément de choses à faire et de renforcement, d'encadrement des médias?
Oui, il y a beaucoup de choses à faire parce que ces anciens acteurs ou ces acteurs traditionnels se trouvent en concurrence directe avec ces nouveaux médias. Donc eux-mêmes doivent se reconstruire, doivent se repenser. On voit bien que la durée d'écoute par individu sur les chaînes traditionnelles est en train vraiment de tomber, que les jeunes se tournent massivement vers les réseaux sociaux, se tournent massivement vers des nouveaux services payants, ce qui pose aussi des questions. Est-ce qu'on va avoir un accès à du contenu de moins bonne qualité parce qu'il est gratuit versus parce que je suis prêt à payer, alors j'ai une information enrichie ou alors j'ai du contenu enrichi? C'est un vrai problème et une vraie question démocratique. Et ça repose à la question à laquelle je n'avais pas répondu, qui était votre première question, sur finalement la concentration. On voit bien que les acteurs traditionnels sont en train de se mouvoir, c'est vrai, et donc de réaliser des opérations de fusion, d'acquisition. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans toute l'Europe. Aujourd'hui, clairement, les acteurs traditionnels sont en quête de taille, exactement comme le son et comme cette guerre est livrée par des services américains, audiovisuels, américains que l'on connaît. C'est vrai qu'on en connaît, ceux-là on les connaît, mais il y a aussi les plateformes chinoises qu'on appelle les BATX qui sont en train d'émerger. C'est une vraie question, d'où la problématique que l'on rencontre aujourd'hui concernant TikTok.
Et concernant la concentration des médias, est-ce qu'il ne faut pas repenser aussi une partie du système tel qu'il fonctionne? Par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer afin d'éviter une concentration sur une même personne, la loi prévoirait trois actionnaires, que aussi pour protéger les journalistes devraient tous avoir une part des journaux dans lesquels ils travaillent, une part énorme, mais qu'en fait personne ne puisse avoir une majorité au sein des médias? Et est-ce que aussi, dans un deuxième temps, les institutions comme le CSA ne devraient pas eux aussi se repenser, par exemple, à travers, pour l'intégrer, avoir être journaliste ou travailler sur le journalisme ou dans la recherche du journalisme?
Alors pour le coup, je pense que c'est vraiment pas à l'ARCOM, ancien CSA, de réaliser ce travail-là. C'est un travail de parlementaire. Ne pas oublier que finalement l'ARCOM ne fait pour partie qu'appliquer la législation, la loi qui a été votée par des parlementaires sur lesquels ils ont discuté. Donc il ne faut pas renverser non plus la vapeur. Je ne pense pas que ce soit à l'ARCOM de réaliser ce travail. En tout cas, il ne doit certainement pas le réaliser en chambre. Ça doit être réalisé, ça doit être pensé, ça doit être échangé, voté au niveau parlementaire et ensuite transcrit dans des conventions ou dans des contrats d'objectifs et de moyens. Moi, ce qui m'insurge dans tout ça, c'est qu'on voit bien dans toutes les questions que vous posez, qui sont parfaitement légitimes, et qu'on a pesé ensemble ce matin, c'est qu'il manque une véritable politique publique. on voit bien qu'on n'a pas une vraie politique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de chemin, on n'a pas de vision. Or, c'est une transformation, et les transformations sont majeures, il y a des enjeux démocratiques majeurs, il y a des fake news, une polarisation, des contenus haineux qui aujourd'hui s'emparent, une invective qui s'empare de la sphère médiatique, et la régulation est indispensable. Aujourd'hui, le marché de l'information, il est dérégulé, il faut poser ces questions sur la table, il faut réviser la loi de la 86, et je pense que de la même de la réviser, il faut complètement une nouvelle loi, mais pour ça aussi, il faut avoir une politique, une envie, un chemin, et c'est ça qu'on n'a pas.
Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et pour approfondir le sujet, on peut bien sûr retrouver votre livre dont vous pouvez nous rappeler le nom.
Oui, merci beaucoup. C'est un ouvrage que je viens de sortir aux éditions Odile Jacob et qui s'appelle « Le nouveau monde des médias, une urgence démocratique ».
Voilà, retrouvez donc « Le monde des médias » dans toutes vos librairies. Merci.
Mais ce n'est pas tout. Rodrigue a également cherché à savoir comment remettre l'humain au cœur de l'info.
Bonjour, on vient de sortir d'un atelier qui s'intéressait à quel journalisme pour remettre l'humain au cœur de l'information. Première question, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Bien, donc je suis Valérie Croissant, je suis maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Lumière Lyon-Dieu et j'appartiens au laboratoire Helico, qui est un laboratoire en sciences de l'information et de la communication.
Oui, bonjour, je suis Lisa Boltz, également maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication. Je travaille au CELSA, Sorbonne Université. Là, je m'occupe d'un master journalisme et je fais partie du laboratoire GRIPIC.
Alors, première question, ça veut dire quoi s'informer ? À partir de quoi, de où on s'informe ? On met quoi derrière ce mot, en fait ?
Ben justement, l'idée c'est qu'on va pas, enfin nous on n'a pas défini a priori ce que c'était, parce que les pratiques informationnelles sont des pratiques qui viennent des individus, et donc il n'existe pas de modèle de pratique informationnelle idéal. Donc c'est tout simplement comment chaque individu fait usage d'un certain nombre de médias pour considérer qu'il s'informe dans des, voilà, à partir de l'actualité ou même des sujets spécialisés. Donc ce n'est pas une définition générale, c'est plutôt partir des pratiques informationnelles. Donc s'informer, pour ne pas donner une définition, c'est réaliser une pratique informationnelle.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
Pareil, je pense qu'effectivement, on n'a pas d'information, en fait, pas de définition du verbe s'informer, et surtout, peut-être aussi pour dire, c'est quelque chose qui a évolué aussi, en fait. On peut s'informer de différentes manières, forcément. Dans le passé, il y avait beaucoup moins de médias, de dispositifs par lesquels on pouvait s'informer, entre guillemets. Il y avait d'abord que presse écrite, après radio, télévision, etc. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les médias et les dispositifs qui sont, voilà, très, très divers, je pense que le terme s'informer, en fait, devient de plus en plus complexe. Voilà, je pense que c'est vraiment un terme en évolution.
Il y a des bonnes ou il y a des mauvaises pratiques pour s'informer ?
Alors, il y a plein de gens, d'institutions, d'organismes qui vont vous dire qu'il y a une bonne information, une mauvaise information, ou qu'il y a une manière de s'informer. Nous, du point de vue, de notre point de vue de chercheuse, en fait, on va analyser ces normes, on va analyser ce que disent chacun des acteurs par rapport à la définition d'une bonne ou d'une mauvaise information, mais nous, on n'a pas de regard particulier là-dessus. En tout cas, nous, on n'est pas des pourvoyeurs de normes. En revanche, on va analyser comment se définissent ces normes et qui les définit. Et notamment, les médias et les journalismes sont des pourvoyeurs de normes et vont considérer qu'il y a des bons médias et des mauvais médias, et nous c'est ça qui nous intéresse, mais nous-mêmes on va pas décider a priori.
C'est tout à fait ça. Il y a des imaginaires qui circulent dans la société pour dire bon, qu'est-ce qui est une bonne ou une mauvaise information, mais effectivement en tant que chercheuse nous allons certainement pas avoir un regard normatif sur cette question-là. Peut-être c'est aussi souvent dans quel but en fait on s'informe, c'est peut-être ça qui nous intéresse un peu plus. Si un journaliste ou une journaliste souhaite s'informer, c'est une autre manière de s'informer que par exemple quelqu'un qui est intéressé par une information économique pour son entreprise. Donc voilà, je pense que en fait c'est peut-être ça qui est un peu intéressant aussi à voir. Dans quel but en fait on s'informe, et donc forcément il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de faire, plutôt des manières plus ou moins adaptées par rapport à ce qu'on souhaite savoir.
Et toujours autour de l'information, comment les médias ils évaluent l'information qu'ils vont proposer à leurs auditeurs? Comment on choisit une information qu'on va proposer?
Je pense que là, on ne peut pas parler de tous les médias font pareil. En fait, dans les médias, disons, dans beaucoup de médias, il y a une conférence de presse le matin. Voilà, on décide dans un collectif par quelles sont les informations qu'on souhaite traiter dans la journée. Donc, il y a un plan dans la journée, on se répartit les sujets. C'est comme ça qu'une grande partie des médias, en fait, vont décider de quoi ils vont parler. Et voilà, c'est une décision collective.
Oui, c'est une décision collective qui est prise en adéquation avec la ligne éditoriale du journal, avec son histoire, avec son positionnement dans l'espace médiatique. Donc c'est le rôle premier du média, je dirais, de journalistique, c'est de choisir en fait. Qu'est-ce qu'on choisit? C'est le rôle de ce qu'on appelle les gatekeepers. C'est ceux qui vont filtrer toutes les informations qu'ils vont recevoir pour décider ce qui est pertinent de délivrer auprès du public. Donc c'est vraiment un choix singulier.
Il y a des guides quand même pour ce choix ou non? Ça dépend.
Heureusement qu'il n'y en a pas.
Après, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur cette question-là. Ils sont posé la question, quelle est l'information qui est plus susceptible d'être reprise dans un média ou pas? Donc, disons, dans un média français, c'est plus probable qu'une information sur la France va être reprise par une rédaction qu'une information sur l'Islande, voilà, peu importe quel pays. Voilà, il y a certains... Voilà, mais ça, c'est un point de vue de recherche, en fait. C'est des chercheurs qui ont essayé de mieux comprendre. Mais effectivement, dans les rédactions, il n'y a pas une règle fixe.
Chaque média va décider en fonction de ce qu'il imaginait de son public, ce qu'il imagine qui va intéresser son public. Voilà, c'est le critère principal.
Et pour remettre l'humain au cœur de l'information, comment on fait quand justement on a des quartiers dits sensibles ou qu'on est plus en campagne, qu'on est plus éloigné des villes, qu'on est à 30 minutes? Comment on fait pour aller remettre de l'humain là-bas, dans ces endroits?
C'est-à-dire par rapport à... Je ne comprends pas le positionnement du média là, par rapport à votre question.
Comment le média va pouvoir aller chercher, va pouvoir retourner vers ses publics?
Après, y a vraiment beaucoup de médias très différents. Il y a des médias forcément à l'échelle nationale, mais en fait, vous pensez peut-être aux médias plus locaux et surtout aussi des médias plus citoyens, en fait, où, par exemple, on va être beaucoup plus proche, en fait, d'un public, par exemple, d'école, etc. Mais ça, c'est pas loin, en fait, aussi d'éducation média, donc parfois, c'est assez proche. Il y a aussi des médias qui sont, en fait, je parle par exemple du Bondi Blog, en fait, qui ont une information moins centrée, par exemple, sur Paris, mais peut-être sur d'autres territoires, mais je pense que ça dépend vraiment des médias. Mais il y a aussi des stratégies, hein. Si on regarde aujourd'hui Figaro par exemple, qui lance des rédactions en dehors de Paris, bon là on reste dans les grandes villes, hein. Pareil BFM TV qui lance en fait des antennes sur le territoire français, pas que à Paris et pas que dans les grandes villes, disons Marseille, Paris, mais voilà, c'est vraiment beaucoup de stratégies très différentes. Effectivement, l'information locale, elle intéresse pas mal de médias, et voilà, comme par exemple BFM TV qui reprend en fait cette notion d'information. Après, il y a aussi beaucoup de médias locaux, dont leur premier lectorat est en fait dans la région là. Voilà, mais après, effectivement, il y a aussi des nouvelles initiatives qui vont aller encore plus proche du public, mais là, c'est plutôt un journalisme presque citoyen pour avoir aussi l'échange. Peut-être aussi dans un but d'éducation média pour vraiment une proximité avec ce public-là.
Il faut séparer peut-être la couverture médiatique, c'est-à-dire quels médias parviennent jusqu'à des publics, du sujet traité. Parce que la notion de proximité, elle peut être aussi dans les sujets qui sont traités. Il y a des émissions qui sont peut-être des émissions nationales, mais qui vont choisir de traiter des thématiques à partir de territoires ou de lieux physiques qui sont moins représentés ou moins exploités. Donc voilà, c'est deux niveaux différents pour travailler justement la représentativité des différents territoires dans l'information.
Eh ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et pour retrouver vos recherches et vos travaux, vers où on peut aller?
Sur les sites de nos laboratoires respectifs, vous trouverez les travaux.
Et bien, merci encore.
Merci.
Merci.
Voilà pour ces rencontres réalisées par Rodrigue Branchy sur les Assises internationales du journalisme de Tours. C'était la semaine dernière et non il y a 2 semaines, comme j'ai pu le dire un peu plus tôt dans cette émission. Tous les contenus réalisés sur les Assises sont prochainement à retrouver sur nos différents sites internet, à commencer par celui de Radio Campus France, radiocampus.fr, et le nôtre, orléans.radiocampus.org. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se donne évidemment rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour une nouvelle édition d'Écoute ta fac. On recevra Fabienne Médussin de l'Université d'Orléans qui nous parlera des cafés signes qu'elle organise. Également en deuxième partie d'émission, on repartira une dernière journée, une dernière seconde partie d'émission avec Rodrigue sur les Assises du journalisme. Et évidemment, la semaine prochaine, nos éditions d'Écoute à Fac seront dédiées à l'intelligence artificielle et au numérique. Ça se passe dans le cadre de notre programmation spéciale Ondulation, le festival de la création radiophonique et numérique de Radio Campus Orléans. Vous la retrouverez, sa programmation complète, sur notre site internet. Votre après-midi sur Radio Campus à 14h, L'Art qui parle de notre temps, 15h, Le Moulin à parole, suivi de Roll Mobs de 18h à 19h, Alors on se fait un film, et de 21h à minuit, ça sera place à La Classe Internationale. Bonne journée à vous sur Radio Campus Orléans, tout de suite.